franceinter.fr.
CO2 mon amour, avec l'énergie moins chère.com, site d'information sur les primes énergie de Leclerc.
Ça se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France.
CO2
contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. C'est Haut de mon amour, avec aujourd'hui à la technique Ronan Mahé et Cédric Lalanne, et assisté de Stéphane Combe, de Joël Levert, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Quand Rudolf Diesel ruina sa vie à inventer son moteur à la fin du 19e siècle, l'ingénieur ne savait pas qu'il venait de se découvrir un nom à particules. Car ce sont bien ces particules fines, mais surtout les suies imbrûlées et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, joli nom, qui viennent cette semaine de recevoir le doux label de cancérogène par l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors chez nous, évidemment, le diesel, c'est une religion. 60% des véhicules individuels et les camions. Alors camions d'ailleurs qui en fait posent moins de problèmes parce qu'ils tournent au bon régime. Cette dieselite aiguë fut encouragée par tous les gouvernements via une fiscalité incitative, voulue et soutenue par Renault et PSA. Aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre, le diesel plus polluant et logiquement vendu plus cher. Quand il y a 10 ans, dans cette même émission avec Frédéric Danwé, nous avancions que les petits moteurs diesel seraient un futur bonheur de santé publique, on nous achetait des pierres. Vous êtes des destructeurs d'emplois en disant des choses pareilles sur un grand média. Ah, ne me dites pas que l'on découvre aujourd'hui que le diesel nous vaporise de particules nocives. Depuis une bonne trentaine d'années, ce serait nous faire croire que l'amiante est dangereuse pour les poumons, que les algues vertes ne sont que d'innocentes la salade, que le plutonium peut tuer pendant des dizaines de milliers d'années, que le climat se dérègle et que les océans se remplissent d'étranges poissons de polystyrène. Ah oui, qui pourrait croire encore à de pareilles fables ? Alors certes, les techniques ont évolué, hein, le diesel consomme moins, émet moins de CO2 que l'essence, mais les petits moteurs polluent plus et sont de plus en plus nombreux. Ajoutez à cela un retard français pour traiter la pollution de l'air en général. Donc demain, quand la nécessité et le courage politique s'en font sentir, les véhicules les plus polluants resteront-ils en dehors des villes et comment faire cela ? Dans l'équité, eh oui, c'est à voir tout ça. En attendant, pourquoi s'en faire ? Pour sensibiliser nos poumons, tenez, une idée festive. Entre deux querelles d'automobilistes seuls dans leur voiture d'une tonne, colorisons les gaz d'échappement de nos voitures avec de couleurs pimpantes. Ambiance danse fluo délirante garantie sur les périphériques aux heures de pointe. Un arc-en-ciel fraternel, digne du jubilé de la reine. Une explosion démente de rouge fluo, de bleu de Prusse, de rose, de jaune, de vert, prairie, etc. Eh bien, Ça nous mettrait tout de suite du baume au cœur et ça nous sensibiliserait un petit peu peut-être. Alors aussi, pour vivre heureux, respirons caché, mais loin des cheminées à bois, des industries, des engrais et des diesels. Et puis vous allez me dire, après tout, les maladies cardiovasculaires, les allergies, les cancers du poumon. Bon d'accord, c'est pas bon pour les comptes de la santé, mais c'est bon pour l'industrie automobile et pour le PIB. À part qu'avec cette reconnaissance de l'OMS, demain, eh bien, des procès pourraient être intentés aux entreprises. Alors, garde-t-on notre exception française ? Veut-on prolonger le vieux monde à coups de soins palliatifs ou bien on choisit autre chose ? Au menu de cette émission, nous retrouverons quand même en début d'émission, bien sûr, Jean-Marie Pelt, mais je vous l'ai déjà préannoncé, il y a cet homme au service militaire, en fait, c'était, enfin, dans la vie, c'est Hubert, c'est Hubert, et puis au service militaire, on a dit Hubert, Félix, Stephen, répondez, hop, il est sorti des rangs, et il a gardé ce nom. Il manque que les vaches, mais c'est une ancienne ferme, hein, vous êtes.
Oui, qui faisait le double, mais qui a brûlé. Il y a très longtemps, c'est peut-être même au siècle dernier.
Ah oui.
Elle est 1810, cette maison.
Ouais.
Les murs, là, ils font 1,20 m à peu près.
Bonne isolation.
Ça va faire, les anciens.
Ben oui. Oui. Bah, on réadapte hein, aujourd'hui, c'est à peu près ça. Bonjour le chat.
Bonjour, c'est à vous.
C'est un chat sauvage qui vient ici quand je suis là.
Donc c'est, il vous a choisi en fait.
Oui, il vient et puis bon, il est en bonne santé, il fait plusieurs maisons comme ça, il est plus isolé.
C'est dit un type qui écrit Sébastocha, c'est pour moi, non ?
sans doute. Mais il y en avait toute une colonie, là. Il y en a des fois, ça dépend des périodes, c'est comme c'est des chats sauvages. Hein. qui sont nés dans des granges. Ah, oui. Là, il s'est fait un copain, là, il amène un copain à manger là, en ce moment.
Ça doit vous plaire, ça, des chats sauvages qui viennent chez vous?
Je peux pas avoir d'animaux, je bouge trop. Ouais.
Chat, c'est parfait.
Le fait que c'est eux qui m'ont adopté, en fait.
Voilà, on découvrira donc Hubert Félix Thieffen chez lui dans la forêt de Chaux, près de Dole, dans ce très beau département du Jura, donc un Thieffen tout à fait différent. Et puis, alors je ne vais pas revenir complètement sur Rio, parce qu'avec Pierre Radin, nous avons consacré une émission complète la semaine dernière, mais bon, Rio plus 20, donc cette semaine, là vous allez en entendre beaucoup parler. Est-ce qu'on appréhendra différemment cette semaine les limites physiques de la planète? L'addiction à la croissance illimitée sera-t-elle remise en cause? On peut en douter un peu, bien sûr. Certains voudront marchandiser la nature, ça va mettre un code-barre dessus avec un label économie verte, et puis d'autres, au contraire, ne voient pas la nature comme un capital, mais comme un bien commun. Vous voyez, ce sont vraiment des enjeux qui sont extrêmement clés. Et là, je voudrais profiter de Rio plus 20 avec vous, Nicolas Boursier, parce que vous êtes correspondant au Monde à Rio, et j'aimerais parler avec vous d'une actualité brésilienne. Bon, l'Amazonie, sa forêt de 5 millions de kilomètres carrés, qui représente 60% de la surface du Brésil. Et juste préciser quand même que les représentants du secteur agricole, au Brésil, siègent à 52% au Parlement brésilien. Et un nouveau code forestier peut menacer l'Amazonie. Alors, ayez la gentillesse, Nicolas Boursier, donc de nous faire un petit point.
C'est très compliqué parce qu'on a affaire à un pays qui est en plein mouvement, en plein essor économique, en plein boom, avec des gouvernements très forts qui ont mis en place des lois très exceptionnelles depuis des années. Vous avez parlé du code forestier, je crois que c'est quasiment unique au monde, un code qui date des années 60, qui protège la forêt d'une manière très très forte, très ferme, d'une manière très détaillée, avec évidemment des problèmes dans le texte lui-même, mais il est là depuis 1965. Et depuis une quinzaine d'années, cette défense de la forêt est reniée doucement par un lobby agricole, comme vous avez dit, qui progresse, qui a de plus en plus de renforts au sein du Parlement, qui a beaucoup de moyens derrière lui. Le lobby agricole représente près de 20% du PIB du pays. Et on arrive aujourd'hui à une situation extrêmement compliquée, où on a une présidente Dilma qui, lors de la campagne, avait dit qu'elle ne toucherait pas à ce code forestal. En tout cas, elle opposerait un veto à toute réforme qui irait dans le sens du lobby agricole. Et elle s'est vue, là, acculée à recevoir un texte extrêmement dangereux pour la forêt, qui est attaqué par les défenseurs de l'environnement, par les partis verts, mais qui sont minoritaires au Parlement, et qui a eu ce texte, et qui n'a fait qu'un veto partiel, c'est-à-dire c'est renvoyé un petit peu, on va dire, après Rio plus 20, qui met en danger cette forêt gigantesque, comme vous l'avez dit, 60% du pays. Imaginez-vous l'Europe, c'est toute l'Europe qui est boisée, avec des rivières, c'est un géant, c'est un poumon qui meurt à petit feu.
Il faut quand même rappeler aussi, Nicolas Boursier, que en fait, le déboisement de l'Amazonie est passé de 27 000 km² en 2004 à un peu plus de 6 000 km² en 2011. Donc là-dessus, il y a quand même eu des progrès. Principalement, c'est pour faire quoi? C'est pour faire de l'agriculture? C'est pour faire du soja?
C'est pour faire du soja, c'est de l'agriculture. C'est la région la plus pauvre du pays. C'est-à-dire que là-bas, les 20 millions de Brésiliens qui vivent en Amazonie, pratiquement la seule solution, c'est de travailler avec la forêt, c'est l'exploitation forestière. C'est fait d'une manière très sauvage et de plus en plus encadré depuis une dizaine d'années. On a ralenti effectivement la déforestation. On est tombé à peu près à 6 000 m² de déforestation, comme vous avez dit. Jamais on a aussi peu déboisé. Ça, c'est vrai depuis une dizaine d'années, avec des hauts et des bas. On est loin des chiffres des années 90, où on déboisait à peu près par an à peu près la taille de la superficie de la Belgique, par exemple. Cela étant, on est donc dans ce côté déboisement qui se réduit, mais le danger est toujours là, c'est-à-dire que cette révision du code forestier, qui s'attaque donc à ces réserves légales, on est dans une réduction des zones protégées qui se met en place.
Et puis qu'il s'agit aussi d'amnistier, on va dire, des gens qui ont défriché abondamment. Donc là, il y a une amnistie. Donc on voit bien où on en est aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une menace qui pèse. Et puis, lorsque l'on ouvre des routes, et bien là, on sait aussi que l'on attire le déboisement. Nicolas Boursier, on nous dit tout le temps, il faut déboiser. Si on veut se développer, il faut déboiser.
On n'a plus besoin de déboiser pour nourrir ce Brésil émergent et le reste de la planète, en tout cas faire des exportations. Tous les scientifiques l'ont montré, le rendement à l'hectare au Brésil est extrêmement faible. Comparé à l'Argentine, on est à 3 fois moins. Le Brésil a un potentiel gigantesque sans couper de nouveaux arbres. Et en fait, ce lobby agricole qui est derrière, qui pousse pour une réforme du code forestier, en fait, ce lobby agricole, on sent qu'il est poussé par les tout petits agriculteurs. C'est vraiment la partie la plus dure, le noyau dur des agriculteurs brésiliens, on va dire la plus conservatrice, celle qui a des réseaux locaux, avec des potentats locaux, régionaux, dans chaque État. Et ce système qui permet d'avoir une influence très forte, démultipliée sur des députés, par exemple. Ce qu'on appelle le blanc ici, la rangée des ruralistes, ont en 10 ans augmenté, ils sont arrivés à pratiquement 300 députés sur les 510-515 qu'ils ont. C'est un retournement complètement de situation pour des raisons économiques, de défense d'intérêts propres, privés, et c'est la forêt qui en pâtit.
Merci Nicolas Boursier, donc correspondant au Monde à Rio pour cet éclairage. Dans quelques instants, ce sera Jean-Marie Pelt, et puis ensuite, ce sera Hubert-Félix Eiffen.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Si jamais tu cherches un refuge, une place où personne ne te juge, tu trouveras toujours chez moi un endroit qui ressemble à ça. Si un jour tu sens le besoin de parler à quelqu'un, de mettre des mots sur tes peurs, si tu en as gros sur le cœur, tu peux compter sur moi.
Dit de père et fils, mais enfin surtout le père, tu peux compter sur moi. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous feuilletons cet ouvrage « Cessons de tuer la terre pour nourrir les hommes » et on va s'intéresser aux plantes guérisseuses. Alors pas les plantes qui guérissent les hommes, mais les plantes qui se guérissent elles-mêmes.
On est évidemment en mesure de guérir les plantes avec des pesticides, mais les propriétés des pesticides sont préoccupantes. Alors on va maintenant chercher des substances, des produits naturels qui sont peu préoccupants.
Les PNPP, produits naturels peu préoccupants.
Alors le plus connu, parce qu'on en a énormément parlé...
C'est le purin d'ortie.
C'est le purin d'ortie, évidemment. Il s'appelle purin parce qu'il sent mauvais, mais le terme n'est pas très heureux, me semble-t-il. Alors ces purins d'ortie sont très riches en azote, parce que les orties poussent sur des sols riches en azote. C'est caractéristique des besoins de l'ortie. Et alors, elles sont riches en vitamines, sont riches en oligo-éléments, elles sont riches en métaux, ce sont des facteurs de croissance, on l'a vérifié, notamment à l'université de Lund en Suède, ça fait pousser fortement les plantes. Il ne faut pas les utiliser pour faire fleurir une plante, parce qu'elle fera plutôt des feuilles que des fleurs, quand on met du purin d'ortie.
D'accord.
Et il y a le purin de prêtre, qui est, semble-t-il, antifongique, l'huile de nème aussi, ça c'est une plante de l'Inde, une plante de l'Inde qui est très insecticide.
C'est-à-dire les mêmes nems que l'on a dans les assiettes ?
Non, non.
Non, c'est pas les...
non, non, ça se dit N-E-E-M, on peut dire Nîmes aussi.
Voilà, voilà.
Alors cette plante est utilisée dans les maisons en Inde pour faire fuir les insectes. Et un laboratoire américain a extrait de cette plante une substance qui s'appelle l'azadirachtine et l'a brevetée. Et voilà tout d'un coup que dans toute l'immense Inde, avec... son milliard, un million d'habitants, n'était plus en mesure d'utiliser dans les villages la plante. Alors l'Inde a fait une affaire juridique très lourde, très longue, très importante. Le résultat, c'est que le brevet a été cassé. Et on peut utiliser aussi des extraits de Nîmes pour faire fuir les insectes. Voilà, donc
non, mais c'est d'ailleurs tout le débat sur la brevetabilité du vivant. Hein.
C'est tout le débat aussi sur l'utilisation des produits peu préoccupants dont nous parlons, parce que le ministère de l'Agriculture
freine beaucoup.
Freine, oui. Freine. Il voudrait.
Ils aiment la chimie.
Oui.
Ils aiment la chimie, il faut le dire.
Oui. Oui. Alors, il est interdit de commercialiser le purin d'ortie. On peut l'utiliser pour soi, mais on ne peut pas le commercialiser. Parce que pour le commercialiser, il faudrait démontrer qu'il n'est pas toxique.
Bon, vraiment, ça y est, c'est parti. Hein.
Oui,
ça,
c'est fait. Oui, c'est fait. Ça a été long.
Oui, ça a été long.
Mais ça a été très, très long. Et de toute façon, pour le tester, il faudrait des moyens que les producteurs n'ont évidemment pas. Donc c'était un combat contre nature, si l'on peut dire. Alors, la France, de ce point de vue, est très cartésienne. Elle aime avoir des tests scientifiques. Alors que les Allemands sont tout à fait différents. Les Allemands considèrent que ce qui est apporté par la tradition et qui a fait ses preuves sur le terrain, ça suffit. Et nous tendons petit à petit à aller dans ce sens-là.
Il paraît qu'il faut imiter l'Allemagne partout. Ben allons-y.
Voilà, tout à fait. Les Allemands aiment bien les plantes médicinales, les extraits de plantes, les médicaments en base de plantes, les produits naturels pour l'agriculture, ils sont tout à fait dans cette optique. Alors, une affaire récente, c'est l'affaire du sémaphore. Le sémaphore, c'est un produit allemand, encore une fois, qui est utilisé par un groupe de 460 maraîchers. Le groupe s'appelle Planète Légumes, c'est en Alsace. Il est mené par un maraîcher qui s'appelle Denis Digel, qui traitait ses salades avec des pesticides.
Il était assez lesta, je crois.
Oui, absolument. Il traitait ses salades avec un pesticide trois fois. Aujourd'hui, il utilise le sémaphore, il n'en utilise qu'une fois, c'est beaucoup moins cher et les rendements sont meilleurs. Bon, mais dans ce sémaphore, il y a des extraits de plantes, il y a des extraits d'algues, et puis il y a les phosphites. Alors le ministère...
C'est quoi les phosphites?
C'est un dérivé du phosphore, assez proche du phosphate, moins oxydé que le phosphate. Alors le ministère a demandé...
Une autorisation de mise sur le marché,
absolument, pour le sémaphore. Oui. Alors évidemment, Denis Digel ne peut pas demander une autorisation mise sur le marché. Ceux qui fabriquent le sémaphore n'ont peut-être pas les moyens de rentrer dans une procédure très longue et très compliquée avec des expérimentations scientifiques, etc. Donc on a fait valoir qu'il n'y a pas de problème puisqu'il est petit 1 homologué en Allemagne et petit 2, les phosphites sont admis par l'Union européenne. Alors ça ne suffit pas. Et l'affaire pend, comment dire, elle est pendante. Voilà. Bon, mais les Planètes Légumes m'ont envoyé ce qu'ils ont fait. Écoutez, c'est très impressionnant. Ils ont des gains de productivité avec ces produits peu préoccupants, qu'on appelle des biopesticides d'ailleurs. Ce sont les pesticides naturels. Ils ont une efficacité aussi contre les mauvaises herbes. Bon, c'est pas tout à fait aussi efficace que le Roundup. Mais c'est moins préoccupant aussi.
Ah, beaucoup moins, oui.
Voilà, donc nous sommes là...
La rémanence ne va pas être la même. Hein.
Non, pas tout à fait la même. Nous sommes là dans les pistes du futur. Arrivera forcément un moment donné où on aura de plus en plus de produits naturels peu dangereux pour soigner les plantes.
Bon, mais ça, il faut que la société civile s'en empare. C'est à nous aussi de faire de la résistance.
Oui.
C'est bon, de soutenir les associations aussi, parce que ce sont des associations qui ont fait remonter cela.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Et ce sont des associations, absolument.
Et c'est après comme ça que les lois donc, seront passées, en allant embêter ses élus, ses députés, le ministère de l'Agriculture.
Oui, ça marche comme ça. Et ça doit marcher comme ça. Et il faut que les associations soient actives. Actives.
Comme le principe.
Comme le principe actif, oui.
Voilà, cessons de tuer donc la terre pour nourrir les hommes, que l'on va lire avec beaucoup d'intérêt au ministère de l'Agriculture, cet ouvrage. Et puis on se retrouve très très vite. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Oh, c'est bien, on peut faire son jardin et écouter l'herbe pousser avec CO2 Mon Amour et Denis Chessou.
là, elle pousse vite. Hein, vous avez remarqué, entre les coups de flotte un peu partout et puis les coups de soleil. Enfin, voilà. Donc, l'herbe, les roses, tout ça, c'est un véritable bonheur. Bon, on a commencé par le diesel, où je me suis dit, oh, il faut de l'air, il faut de l'air. Eh bien, on va vous trouver ça avec Hubert, Félix, Yéphen. Allez.
Alors, la sommière, en fait, c'est ça. C'est là où on se paume souvent, c'est que c'est souvent pas le chemin le plus utilisé, c'est pas forcément celui d'un... Il y a des tronçons de sommières qui sont abandonnés pratiquement, parce que c'est marécageuse, ils appellent ça les bourbasses. Là. Ouais. Alors ça fait, on fait des détours, et des fois on fait carrément un demi-tour sans s'en apercevoir. Alors
avec cette sommière, on traverse en fait pratiquement toute la forêt de Chaux.
Alors toute la forêt a été organisée, mais déjà sous la monarchie, hein, avant Napoléon. Ça a été continué par Napoléon, mais je conseille pas de prendre ce... Parce que là, on va dans les marais, là. C'est une forêt qui a failli disparaître, un peu comme le Sahel, hein, pour les mêmes causes d'ailleurs, au XVIIe siècle, par là. Parce que les gens faisaient paître leurs bêtes dans la forêt, eux-mêmes se fournissaient en bois, mais surtout les bestioles quoi, qui bouffent les petits, tout ce qui sera les futurs chênes et les futurs...
Alors là, on rencontre des forestiers, des joggeurs, puis on a quelques chevreuses peut-être qui sont en train de nous épier, nous on les voit pas.
C'est vrai, j'en ai encore vu un hier soir, ouais. J'apprécie beaucoup quand je suis comme ça en tournée, notamment quand j'arrive de Paris, il y a longtemps que je n'ai pas vu un peu de nature. Quand j'arrive, boum, je tombe nez à nez avec un chevreuil, tout de suite, ça y est, je suis dans le paysage. Quoi.
Alors ici, quelle serait la musique de Beethoven ou de Mahler qui irait bien?
Et quand je viens par ici, je ne sais pas ce que je cherche. Je cherche plutôt le silence. Oui. Je pense que les oiseaux me vont tout à fait. Oui.
Je disais ça parce que c'était pour nous aider un petit peu pour l'habillage sonore, comme je sais que vous adorez Mahler et Beethoven.
Ce serait plutôt Mahler, là, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Mahler composait dans le Tyrol, notamment, où il avait un chalet, il était gêné par les clarines des vaches. Donc on peut imaginer qu'ici, il serait peut-être la nuit gêné par le chant du hibou. Et aujourd'hui, j'ai entendu pour la première fois le coucou, donc il serait peut-être gêné, ou alors il mettrait des notes qui ressemblent, je ne sais pas.
Nous y sommes. Nous sommes donc dans la forêt de Chaux, non loin de Dole, dans ce très beau département du Jura. Alors vous avez donc la forêt dans la plaine, on va dire. Après vous avez les vignobles, et puis le premier plateau. Et puis on grimpe vers les épicéas, la neige, le froid sec, le pays des lynx, les cascades, la beauté du monde. Voilà, donc c'est très très étagé ce beau département. Là nous étions donc dans cette forêt de Chaux, puisque donc il habite juste à côté, Hubert Félix Yéphen. Belle fin de journée, un homme tout à fait disponible, tranquille. En plus il est très très rarement interrogé sur ce thème-là, donc balade en forêt au pays des hêtres et des chênes. Et puis l'homme aujourd'hui se reconstruit pas mal, hein. On le sait, donc malgré un pessimisme sur l'humain qui n'est pas une posture, mais la vie à 63-64 ans semble l'avoir emporté donc, sur la destruction, et donc on va mettre nos pas dans ceux de ce magnifique poète, hein, qui remercie d'ailleurs sa folie de l'avoir empêché d'être fou dans une de ses dernières chansons. Et on va cueillir aussi la lumière, oui, chez cet homme, dans cette forêt de Chaux, qui était un ancien lit du Rhin, mais ça, on était prenés les uns les autres. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous qui êtes un homme plein de mots, quoi, je sais que vous avez de l'admiration pour des gens comme Céline, comme Lautréamont et évidemment d'autres aussi qui foisonnaient de mots. Ici, c'est plein de silence. Et vous l'avez très bien dit, ce que vous aimez ici avant tout, c'est ce silence comme la solitude qui peut être habitée. C'est ça que vous venez rechercher là.
Le décor importe peu, je ne suis pas très exigeant. C'est silence, solitude, espace et temps. C'est-à-dire, je peux rester des fois une semaine sans parler à personne ici, et ça me permet de garder tous mes mots au frais. Et moi, il faut que les mots soient chargés d'images et de musicalité. Donc, c'est, parfois, il me faut un peu de temps. Donc, j'ai besoin de m'exiler, d'aller ailleurs et d'avoir ce silence pour me concentrer et puis le temps pour pouvoir jouer avec mes mots. Enfin, je viens écrire ici quand j'ai du matériel, mais je suis pas très inspiré par la nature elle-même.
Oui. C'est à la fois, elle ne vous inspire pas. Mais en même temps, vous en avez besoin pour votre décor de vie. Quoi.
J'en ai besoin pour mon silence et ma solitude. Ça. Mais ça ne m'inspire pas vraiment. J'ai essayé parce que souvent les journalistes me disaient « Comment se fait-il que vous qui aimez tant la nature, je ne sais pas où vous avez trouvé ça d'ailleurs, vous n'écrivez que des choses urbaines. » Alors un jour, j'ai essayé d'écrire, c'était au mois de mai 2000, j'étais sur ma terrasse et il y a une cacophonie d'oiseaux qui chantaient et tout. Et je me dis « Tiens, je vais leur faire une chanson là-dessus.
Ouais. »
J'ai mis 3 mois à la faire, il a fallu que je casse tout.
Oui, c'était pas la peine.
La chanson, il a fallu que je fasse un truc un peu surréaliste pour que ça commence à fonctionner. Quoi. Donc j'ai arrêté les frais. Là.
Cela dit, La fille du coupeur de juin, c'est presque une chanson ode à la nature.
C'est très particulier, parce que ça, je l'avais écrite en fac pour faire rigoler les copains, mais c'était aussi le début de ce qu'ils appelaient les folkeux, quoi. Et même à Paris, il y avait les mecs en sabots. Ils se faisaient toute la campagne française pour aller voler des chansons, en fait, parce que le premier qui arrangeait une chanson traditionnelle, c'est lui qui touchait les droits d'auteur. Il y a eu pas mal de truands comme ça dans les années 70, et beaucoup de Parisiens, notamment. Et il y avait aussi tout ce régionalisme qui fonctionnait, vive la Bretagne libre, vive le Languedoc-Roussillon libre, vive l'Alsace libre. Et donc avec des copains, on avait monté le Jura libre, on voulait le rattachement au Jura suisse pour partager le chocolat, enfin les conneries. Quand même. Et le lendemain, j'ai continué, j'ai voulu élargir le panel, j'ai mélangé plusieurs chansons traditionnelles, c'est devenu La fille du coupeur de joie, enfin j'ai ajouté ma petite couleur personnelle.
Non, parce que celle-là, tout le monde vous la demande, quoi. Ça fait partie quand même des...
Ah ouais, j'attends même plus qu'on la demande, hein. Je la joue, parce que de toute façon, sinon il y a
émeute. Vous feriez lyncher, donc c'est pas la peine.
Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. En chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin.
Alors lorsque l'on parle sinon d'écologie, parce que vous n'êtes pas insensible à ce mot-là.
Moi j'ai fait partie du premier mouvement écologique français, 15 jours et demi.
Donc années 70, c'est ça?
Ouais, je suis parti en courant parce que... Parce
15 jours et demi, c'était pas mal déjà.
Ouais, parce que c'était stupide, quoi. Enfin, c'était des cons, quoi. Ouais. Tout militant est un peu con, mais là, c'était un peu trop, quoi. Les mecs, quand on nous invitait, ils venaient avec leurs carottes bio à la main. C'était très courtois pour ceux qui invitaient, quoi. En leur disant, vous bouffez de la merde, vous regardez, on mange des carottes bio.
Oui.
À force de manger des carottes bio, on commençait à prendre des formes de carottes. Mais bon,
bien sûr, ça ressemblait à des lapins.
J'y suis resté 15 jours et demi, donc je me méfie dès que j'entends le mot écologie, ça m'intéresse. Mais dès que j'entends le mot écologiste, je m'en vais en courant, quoi. C'est clair. Quoi. C'est un peu comme la religion catholique, ça, et les religions en général, ça me fait fuir. Quoi.
Oui. Combien d'années, donc, je disais 25 ans que vous êtes posé ici?
Bah, c'est Lorelai qui m'a offert la maison. Là.
Ah. Merci Lorelai.
Disons que moi
j'ai un peu transformé en prostituée, me semble-t-il. Non, c'est pas,
moi j'en ai fait une prostituée, oui, mais à l'origine, non, c'était une allumeuse.
Non, je sais bien. Oui, ce n'était qu'une allumeuse.
J'ai dit, je commençais à être fatigué de Paris. Je commençais à dessiner des arbres sur mon cahier de téléphone. Je me suis dit, donc j'ai cherché un peu dans le sud et puis j'avais pas le temps vraiment. Alors je me suis souvenu que j'aimais cette région, que j'aimais cette forêt.
C'est un peu franc-comtois quand même, malgré tout.
Jurassien plus que
franc-comtois. Jurassien, d'accord.
Et je me souvenais du Val d'Amour, donc j'ai cherché un petit peu, mais j'avais une seule journée pour trouver une maison, donc il a fallu faire vite. C'était au mois de mars, il pleuvait, tout était gris, il n'y avait pas de feuilles aux arbres, l'herbe était toute grise, enfin c'était... Mais j'ai tapé dans les mains, j'ai vu qu'il n'y avait pas un seul bruit. Il y a eu un bruit tout d'un coup, j'ai demandé ce que c'était, on m'a dit, vous inquiétez pas, c'est une noix qui tombe à 3 km.
Ah oui.
Et donc j'ai dit ok, je prends.
Et en même temps, c'est vrai que ce mot de Val d'Amour, donc là c'est pas très loin en fait d'ici quand on traverse la forêt. Voilà, ça vous aurait plu, je veux dire, pour le bonheur de la poésie que ça pouvait véhiculer. Ben,
j'aimais bien, bien ce nom. Et puis il y a tellement de légendes autour, là on est en train de s'embourber.
Oui, alors attendez, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un autre petit chemin.
Là, on sort carrément de la sonnière, on va dans une autre direction.
Bon, on peut y aller, hein. Vous avez le sens d'orientation, puis moi aussi, donc on devrait y arriver. Bon, on va rentrer davantage dans la forêt.
Mon blues a déjanté sur ton corps animal. Dans cette chambre où les nuits durent pas plus d'un quart d'heure. Juste après le péage, assurer l'extra balle. Et remettre à zéro l'aiguille sur le compteur.
Ces rayons de soleil là qui nous tombent dessus. Ah, si, on a quand même un peu de résineux là.
Oh là, c'est assez rare. Il y a une époque, ils ont commencé à mettre du résineux, puis je pense que des écolos ont dû gueuler un peu quand même en disant, ouais. Mais après, vous savez, être foutu, on ne va plus pouvoir rien mettre.
Bah, c'est des sols pauvres après.
Et hein. Les résineux, c'est bon pour le haut, donc ouais. C'est passé vite. Hein.
Cela dit, vous devez quand même ramasser de la neige aussi de temps en temps. Ici.
Là, ça tombe vite quand ouais. On approche d'ici. Hein. Sur les 50 km, là, on perd 3 degrés, hein, par exemple.
Ouais, c'est ça.
Donc, il fait quand même plus froid que dans les plaines de la Saône. Hein.
Et là, il y a quand même...
Là, on a une source, qui est plus haute. Hein.
On se rapproche, oui, ça y est, là, on a un beau petit rue, là. Oh, bah, il fait déjà un bon 1,50 m.
Elle a une fleur abondante. Hein.
Ouais. Et qui va aller nourrir la... Le Doubs.
Ça va dans une petite rivière qui s'appelle la Doulonne et qui jette dans le Doubs, ouais. Pas très loin.
Le Doubs, il prend sa source du côté de Moutes, hein, je crois, tout là-haut. Donc,
Oh, c'est un autre pays, oui.
Ah oui, c'est un autre pays. C'est, il fait très froid, là.
Oui, c'est froid, là. Ouais, ça, c'est moins 40, là-bas. C'est, autre chose, hein. C'est la petite Sibérie. Là, il y a un petit pont, jadis.
Qu'est-ce qu'on fait, là? On traverse ou on longe? On se le tente?
C'est pas profond, mais...
Non, allez-y, c'est bon. Allez-y d'abord, si ça craque, je verrai ce que je fais. Allez, Hubert. Non, si, c'est bien. Bon équilibre. Comment ça, il y a des clous? Ah oui, non, ils ont été retournés, ça, c'est bon. Bon, ben moi, je vais prendre l'autre tronc, voilà, en parallèle, avec le micro à la main. Et bon, c'est même pas mis dans l'eau. On voit évidemment très bien le travail de l'homme. Parce que cette forêt, alors faut peut-être l'imaginer, donc à l'époque de Louis XIV, ça ne devait absolument pas arrêter. D'abord parce qu'on sortait des troncs pour la marine, et puis il y avait des industries, des fabriques tout autour. Donc on utilisait beaucoup le bois.
Même avant, c'est industriel depuis l'Antiquité ici. Hein. Tous les villages, il y a une vingtaine de villages autour de la forêt, et la vingtaine de villages ont tout un cachet historique, quoi. Bon, il y a plein de voies romaines qui traversent cette forêt.
Oui.
On sait que César lui-même passait ses quartiers d'hiver à Besançon. Donc on peut imaginer par exemple que les glaives des soldats romains ont pu être fabriqués dans le coin. Quoi, parce qu'il y avait, du côté du Doubs, il y avait beaucoup de sidérurgie. Mm-hmm. Il y a même une partie de la tour Eiffel qui a été construite dans le village à côté. Et dans la forêt, il y avait une verrerie. Et puis il y avait beaucoup de briqueterie, de poterie. Enfin, tout ce qui demandait de l'eau, de l'argile, du fer, de la chaleur, enfin, il y avait tout, quoi.
Et vous sentez quand même un peu franc-comtois. Enfin, moi, c'est marrant parce qu'en vous écoutant, t'entends, je me disais, tiens, je retrouve un peu des accents à la Clavelle. Bernard Clavel qui est enterré pas très très loin, là, à Frontenay.
Oui, non, mais je vais pas jouer comment les traîtres et les mecs qui crachent dans la soupe. Seulement, moi, j'ai raconté à une certaine époque, je parlais de citoyen cosmique, et ça m'intéresse ouais. Davantage. Mais je suis fier d'être jurassien, quelque part, très fier. Mais ça ne me suffit pas en soi, c'est pas... Ouais. Régionalisme, c'est un peu petit, quoi. Même l'Europe, c'est petit pour moi, donc c'est surtout mal organisé, mais ça, c'est un autre sujet. Mais... je le vois beaucoup plus large, quoi. C'est-à-dire, depuis tout jeune, j'ai toujours été intéressé par les civilisations des autres aussi. J'étais très mal reçu dans le Jura, hein, au départ. Quand ça commençait à marcher fort dans les années 80,
ouais.
Je me faisais siffler ici, hein, je me faisais jeter. J'ai arrêté de tourner pendant 10 ans ici, dans toute la Franche-Comté. Hein.
Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient?
Non, je ne sais pas. Sans doute que j'ai mis ça sur le compte que nul n'est prophète en son pays.
Oui,
je suis reparti ailleurs. Quoi. Mais, puis ça m'a, c'est peut-être aussi ce qui m'a intéressé de m'installer ici. Je me suis dit, au moins ici, ils ne vont pas m'emmerder puisqu'ils ne m'aiment pas. Donc...
Un autre pont, on y va. La montée de forme et d'équilibre, ça.
Oui, ça, c'est bon. Il y a quelques années, j'aurais pas fait. Hein.
Oui, enfin, vous auriez allé à la flotte, quoi. Vous auriez bu de l'eau du ruisseau. Alors, je vous présente un bon copain qui s'appelle Alain Goy et qui est un forestier. De la forêt de Chaux,
mm-hmm.
Donc un jeune ancien de l'ONF, hein, faut dire, et qui adore cette forêt. Alors, cher Alain, pour la présenter pour les gens qui ne la connaissent pas, qu'est-ce que l'on peut dire de cette forêt de Chaux?
S'il fallait caractériser la forêt de Chaux, alors ça, c'est un bien grand mot. Alors bon, on peut s'arrêter aux chiffres, 22 000 hectares, plus deuxième forêt française,
J'en ai 500 de plus, moi.
Ah, c'est bien.
22 500. Ouais, 500. Ouais, ouais, ouais. J'ai recompté et j'en trouve 500 de plus.
28 km de long, 16 de large. Bon. On pourrait dire que la forêt de Chaux, c'est une porte, hein, une porte sur un autre monde. Un monde du mystère, un monde, hein, c'est une forêt où il y a une présence d'eau. La forêt de Chaux, bah, je pourrais peut-être la caractériser comme une belle jeune femme aussi. Hein.
Ça, ça va beaucoup plaire à Hubert, parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout rentré sur l'aspect production de la forêt, mais Alain nous la présente comme un personnage envoûtant.
Ben oui, on n'est pas loin de la Wivre dans la description.
Et voilà. Hein,
dans
sa, c'est...
Quand j'ai parlé de femme, j'aurais pu ajouter la vouille, parce qu'évidemment.
Mais... Puis dans les vapeurs, dans la brume, dans l'eau, tout ça. Dès le début, tout le discours qui est magnifique, là, moi je vois la vouille partout. Là.
On peut se paumer là-dedans, hein, dans cette forêt si on...
Ah oui, alors c'est vrai. Alors on dit toujours, avec un petit clin d'œil, qu'un forestier ne se perd jamais, il s'égare seulement. Hein, mais c'est vrai qu'on tourne facilement en rond, surtout quand on n'a pas le soleil pour se repérer et se diriger.
Et le hêtre aussi qui fait partie de cette forêt, est-ce qu'on le voit commencer à remonter, comme on dit, avec le réchauffement climatique ou...
Alors le réchauffement climatique, le gros problème, c'est que si en effet les choses s'accélèrent, on va voir disparaître le hêtre. Le hêtre, il lui faut une certaine
humidité.
Ça parle de
mi-ombre.
Voilà, et donc on risque de le voir disparaître, ce qui sera un gros danger pour la forêt de Chaux. Parce que là, on a des chênes déjà qui sont limites au niveau de la nappe phréatique, etc. Bon, ils accusent plein de problèmes. Mais si le hêtre disparaît, là, on va avoir vraiment, vraiment de gros soucis. Et on va avoir certainement à choisir peut-être d'autres essences.
Avec le réchauffement de la planète, on peut imaginer le séquoia, là. Hein.
Oui, on peut.
Le baobab, par exemple. Vous avez commencé des baobabs.
Des banyans.
du palétuvier dans la cloche. La cloche est un petit ruisseau de la forêt. Hein.
Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait. À la ferme au soleil couchant dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les murs en bas dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires, un grand coup de verre de kéfir. Ivre de joie et sans savoir, on reprenait Mersel Kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifor qui libéraient la French County et en bas, dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une guilde royale mentole. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous égouttaient leurs framboises en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les automnes quand sonne l'heure de nos folies. J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie.
les enfants cueillent des immortels et qu'ils en prennent des boutons d'or. Les deux se ramassent à l'appel en bas, dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts.
Extrait de cet album qui a reçu donc des victoires de la musique, supplément de mensonges, petit clin d'œil au Gai Savoir de Nietzsche d'ailleurs. Et donc c'était La Ruelle des Morts, c'est aussi un petit hommage à son arrière-grand-père qui était ferblantier et qui le ramène aussi vers le Jura. Bon, on n'a pas fini, on est bien d'accord. Allez, on continue avec Hubert Félix Yeffen dans La Forêt de Chaux, dans le Jura. Là, on est sur des très belles couleurs quand même de fin d'après-midi. On a des petits carrés comme ça de
jeunes feuilles. Ça prend même des teintes d'automne à certains moments de la journée. Parce que elles sont toutes jeunes. Là-bas, elles sont encore un petit peu ocre même, au fond.
Mais une forêt, en fait, elle se débrouille toute seule. C'est-à-dire que c'est un excellent exemple de recyclage. Vous n'avez pas de déchets, enfin, sauf si des gens en balancent. Mais sinon, il n'y a jamais de perte. Tout fonctionne en cycle fermé.
Et c'est un peu là où j'en tiens compte, moi, c'est que quand je suis un peu paumé, quand je suis largué, quand je ne sais plus quelle décision prendre, je vais toujours vers la nature voir ce qu'elle m'indique, quoi. Elle se trompe rarement, quand même.
Ouais.
C'est peut-être ce qui me désespère un peu aujourd'hui, c'est que plus l'homme s'éloigne de la nature, plus on va devenir perdant. C'est là où je suis prêt à défendre l'écologie et la nature, quoi.
Oui, donc ça veut dire qu'il y a quand même une source que certains analysent, comprennent, que vous ressentez, vous sentez quand même relié à ce milieu, aussi vaste soit-il.
Oui, quand j'étudie certains comportements humains, je les compare à ce qui se passe réellement dans la nature et à ce qui serait normal. C'est peut-être absurde de regarder la nature telle qu'elle est, mais c'est encore plus absurde de regarder l'homme dans sa vie quotidienne, hein, avec tous ses gadgets, avec tous ses... C'est assez ridicule quelque part. Donc ça me permet aussi de m'appuyer, pas seulement sur la nature, hein, je m'appuie aussi sur...
Sur les gens qui vous entourent.
Sur les gens qui m'ont précédé, surtout, ouais. Que ce soit dans l'Antiquité avec les auteurs grecs ou latins, ou que ce soit plus proche. Et je m'en sers aussi comme pour avoir du recul. C'est vrai que la nature, c'est un bon repère, quoi.
En fait, le petit séminaire, ça a été aussi une sacrée ouverture. Parce que je ne sais pas si c'est à ce moment-là que vous avez regardé La République de Platon, que vous aviez traduit en long, large et en travers.
On traduisait ça, oui, on traduisait ça, mais il nous faisait traduire ça en étant quatrième. Alors, ouais. On n'avait pas l'âge de pouvoir prendre du plaisir à ce genre d'idées. Et quand après j'ai analysé ce que j'avais appris à l'école, je me suis dit, mais putain, dans tout ce qu'on essayait de te montrer, il y a peut-être des choses intéressantes. Donc j'ai essayé d'y retourner, quoi.
Alors, qui on pourrait rencontrer dans cette forêt? Est-ce qu'il y a des poètes? Rimbaud, qui a fait toute sa carrière en 2 ans et demi et qui était plus imprégné des forêts des Ardennes, oui, mais c'était quand même des forêts aussi.
C'est la lumière qui intéressait Rimbaud, c'est pas trop les ombres et les lumières comme on a ici, quoi.
Et vous, c'est ça quand même que vous aimez, c'est l'ombre et la lumière?
Ah oui, moi je suis passionné par ce côté ombre et lumière. Et c'est ce que j'essaie de faire moi aussi dans mes chansons, c'est-à-dire que je vais commencer à éclairer des choses. Et tout d'un coup, je vais avoir une phrase, on va se dire, qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est-à-dire, j'essaie volontairement de créer un côté obscur, où les gens peuvent se retirer à un moment pour se mettre dedans, quoi.
Alors ça commence dès le matin, si vous ne travaillez pas, vous ne vous sentez pas bien, donc...
Depuis toujours, même mes premières chansons, quand j'étais à l'école et que j'écrivais des chansons, quand je finissais une chanson, j'avais toujours peur que ce soit la dernière, donc je me remettais toujours au boulot, et plutôt que de flipper en me disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, je préfère me mettre au boulot tout de suite. Je pars de la page blanche, comme tout le monde.
Ouais.
Quand on reste longtemps sur une page blanche, il faut se dire qu'on est en train de travailler, que la moitié du travail se fait devant la page blanche. J'ai toujours dit que l'ennui était quelque chose de fondamental. On doit pouvoir avoir le temps de s'ennuyer. Pour pouvoir créer, il faut l'ennui, il faut cette patience devant les choses qui n'avancent pas.
La jambe de Rimbaud
de retour à Marseille, comme un affreux cargo chargé des troncs vermeils, dérive en immondice à travers les égouts. La beauté fut assise un soir sur ce genou. Horreur à rare Arthur, es-tu là injurié? Horreur à rare Arthur, tu l'as trouvé.
Il vous plaît ces arbres là qui se font de la concurrence en fait, parce qu'en fait ils attrapent la lumière quoi, il faut qu'ils soient un peu parfois en compétition l'un avec l'autre.
Enfin, ah oui, mais moi je suis un peu maniaque, alors là ce que je ferais, je couperais ceux qui empêchent les autres de pousser droit.
Ah oui, ah quand même, je ne veux voir qu'un seul tronc mais droit.
Vous êtes un peu maniaque effectivement.
Oui je suis maniaque, mais ça, bon, ça se soigne aussi. Hein.
Oui.
Enfin l'artiste il range le chaos, donc c'est normal qu'un artiste puisse être maniaque. Et d'ailleurs, au départ, je faisais un peu de tout. J'ai fait de la peinture, j'ai écrit des romans, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'écrivais des nouvelles. J'ai un peu essayé tout ce qui était possible et je me suis mis à ce qui me salissait moins les mains. Quoi. La peinture, à un moment, je ne supportais pas de me salir les doigts avec. D'ailleurs, j'ai jamais ouvert le truc de ma bagnole pour voir le moteur. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué, tous les poètes, tous les romanciers que j'aime, ce sont des oraux. C'est des gens qui crachent, qui vomissent. C'est Bukowski, c'est Céline, c'est Miller, c'est Rimbaud dans Une saison en enfer.
C'est Ferré.
Ferré aussi, mais Ferré est largement inspiré, tous ces gens. Hein. Il n'a jamais dit qu'il aimait Céline, mais ça se sent partout. Hein.
Ah, là, on a un très joli concert, parce que c'est le moment... Alors, le soleil est encore haut. Mais où nos oiseaux donc, vont quand même se dire...
Ouais, c'est le merle, hein. Donc il couvre un petit peu...
Il couvre les autres.
Il couvre les autres, le merle.
Ouais, d'accord. On en a une petite dizaine quand même qui sont différents, ouais. Là. On a principalement du passereau. Et voilà, on n'a pas vu débouler le jet des chênes. Parce que pourtant,
il y a beaucoup de chardonnerets, là.
Ouais.
Il y a beaucoup de pinsons et de chardonnerets. Je les confonds d'ailleurs, ils ont des champs un peu similaires.
Il joue juste, hein?
Ah oui, ça c'est sûr. Mais le merle chante bien, mais il chante trop fort. C'est une histoire de mix.
Oui.
Tout ce qui est mal mixé, j'aime pas.
Oh, vous l'avez dit, il n'est pas maniaque. Bon, mais voilà.
Le merle bien mixé, ça pourrait être un peu rossignolesque.
C'est ça. Bah, écoutez, vous allez apprendre au merle à faire une balance correcte.
Bah, c'est l'ampli. Hein.
C'est l'ampli, c'est ça. Regardez quand même, là on est dans un creux, hein, dans un creux de verdure. Oui. Alors, c'est peut-être pas forcément un petit val qui mousse de rayons, mais c'est absolument charmant quand même.
Mais tout ça, le hameau, là, il était pris, c'est récent, récent, 1550. C'est-à-dire que c'est récent, ouais, par rapport récent. À l'histoire des autres villages, hein, qui viennent de l'Antiquité. C'était de la forêt, là, tout ça. Ils ont fait une ouverture, quoi. Ils ont fait pour créer ce hameau qui, au départ, était un lieu de reclus. Alors les reclus, je pense que c'était des prisonniers qu'ils utilisaient pour les faire travailler dans la forêt.
Oui, c'était la main d'œuvre. Bon, et puis on va laisser cette nature, Hubert. Et puis on va se dire au revoir là, dans ce coin du Jura, qui est très très beau. Vraiment très beau. Là, on est dans la partie plaine et puis...
On est juste à la rencontre, c'est la fin de la plaine de la Saône en fait. Mais là, à 10 km, on a déjà les contreforts du Jura. Quoi.
Ça.
Et puis les contreforts du Jura, on les monte en 10 minutes et on est sur le premier plateau. Et là, c'est complètement différent. Quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on est à 600-700 mètres d'altitude déjà, 800.
Ah là, non, pas tant.
Non, je parlais
après,
du premier plateau.
Après, oui, après, on est dans la neige, hein,
c'est ça.
Souvent. Parce que là, bon, c'est le bout de la plaine. Là.
C'est le territoire des chiens, des sangliers. Et un peu plus haut, c'est le territoire du lynx, déjà.
Oui, mais il y en a, je pense qu'il y a des lynx là.
Ah, il y en a
déjà.
Ah,
ici, mais ils ont raison de ne pas tout dire ce qu'ils remettent dans la forêt.
Non.
Moi, j'ai vu un ours l'autre jour devant chez moi, puis quand il faisait froid, j'étais en vieille, là, il y avait tous les loups autour.
Oui.
Moi, j'ai rien dit. Hein.
Oh,
j'ai laissé faire, parce qu'après, c'est plus.
De toute façon, le rhinocéros que vous avez gardé, parce que.
Là, c'est pour la corne. Hein.
C'était pour la corne.
Oui, parce qu'avec l'âge.
Je comprends, il paraît. Enfin,
c'est bien d'avoir un rhino chez soi, quand même. Enfin, moi, je conseille...
Et puis le tigre aussi, enfin, la poudre de tigre, ouais, il paraît que c'est pas mal.
Oui, mais ça, je l'attends, là.
Vous l'attendez?
Je l'ai commandé pour juillet.
Oh, bah, c'est bon, ouais, il va arriver, ouais. Bah, bien sûr. Vous faites attention à l'eau, hein, j'ai vu dans les gestes écologiques que vous faites.
Ah, pour l'eau, oui, oh, bah, j'ai conscience, parce qu'ici, surtout dans le Jura, on manque d'eau. Nous, il n'y a qu'à voir la mousse par terre, elle est un peu sèche, là.
C'est ça, ouais.
Donc, non, mais moi, je fais très attention. Par exemple, pour me brosser les dents, là, je coupe l'eau du robinet. Oui. Par contre, il y a un truc que j'arrive pas à faire, c'est que j'ai appris à nager dans les torrents du Haut-Jura, oui. Donc j'aime nager dans les eaux fraîches. Donc je peux pas m'empêcher de changer l'eau de la piscine tous les jours, quoi, pour nager un peu.
Ah, c'est normal, ouais. C'est normal. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, cher Hubert, et puis on se dit à bientôt.
Ok, salut Denis. Eh ben, écoute, c'est ouvert, hein, la forêt là, il y a qu'à pousser le portail.
Oui. Eh ben, un grand merci, hein. Prenez pas ça au premier degré, hein. Complètement, la fin de l'émission, bien sûr. Merci à Hubert Félix Yéphen, à son épouse, pour cette parole rare et d'avoir ouvert la porte de sa forêt. Voilà, une façon de le découvrir un peu différemment. Et puis, si vous l'aimez, mais oui, eh bien, nous avons cette belle tournée France Inter, hein. Nous soutenons depuis longtemps Hubert Félix Yéphen. Le 24 juin, vous irez en Ardèche, à Ruons, tout à fait précisément. Vous le retrouverez le 29, pas loin de chez lui d'ailleurs, en Franche-Comté, à Belfort pour les Eurockéennes. Et puis le 30 juin, ce sera en Loire-Atlantique, il sera à Nord-sur-Erdre. Hop. Hey Jane, where you going today? You took a car, then you ran all day. That clock going 110. I never said I'd get you back again. So Jane, got time to make no mistakes. Ain't got time to waste my brakes. Hey Jane, where you going today? You lit a fire, then you found the flame. They say you got a troubled soul. I say you got it on a roll. So Jane, got time to change your ways. Ain't got time to make no mistakes with you. Show them what you can do. You can do. Voilà, un petit rock quand même pour terminer après Hubert Félix Yéphen. Spiritualize, c'est le groupe Agen. C'était donc la chanson choisie par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur. Merci à Renan Maé, Cédric Lalanne à la technique, à Stéphane Combe, à Joël Levert, nos assistants, Valérie Ayastaraï qui a réalisé toute l'émission et aussi donc ce reportage avec Hubert Félix Yéphen. Anne Gouzon a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Alors, on a une photo avec Hubert, mais on l'aura en fait la semaine prochaine, pour tout vous dire. Voilà. Donc elle sera sur le site. La semaine prochaine, on retrouve Jean-Marie Pell. Il y aura l'actualité avec Nathalie Fontrelle. On fera un petit tour du côté d'Emmaüs. On parlera de monnaie locale. Enfin, encore beaucoup de choses pour cette dernière émission. Et puis, dans quelques instants, ce sera Colomb-Steck avec Liaison Heureuse. On y va. Tenez le monde. Oui, oui.